Monsieur Jean-André Charial, vous êtes le propriétaire de l'hôtel Beaumanière. Pourriez-vous nous planter le décor, nous faire comprendre où nous sommes lorsque l'on est dans votre établissement ?
Nous sommes au pied du village des Baux de Provence, village qui a été la capitale de la Provence au Moyen-Âge, qui a eu son heure de gloire donc au XIIe siècle, dans un milieu très rocheux, très rocailleux. Au milieu de cet environnement très minéral se trouve cette bâtisse historique de Lousteau de Beaumanière, qui date du XVIe siècle et qui a une salle de restaurant très particulière puisqu'elle est voûtée et avec des voûtes qui s'entrecroisent, ce qui est assez rare dans la région. Donc vous avez un cadre extérieur magnifique avec les Alpilles, vous avez un cadre intérieur avec cette maison du XVIe, et si vous ajoutez une qualité de cuisine et une qualité de service, vous avez un ensemble unique.
J'aimerais que vous nous parliez de vous, si vous voulez bien, du Jean-André Charial cuisinier, celui qui a appris la cuisine il y a plus de 50 ans, et qui a forcément une part très importante dans l'image de cette cuisine ici. Vous êtes en train de passer la main au chef Glenn Vielle. C'est quoi la journée type de Monsieur Charial, après toutes ces années, un rythme effréné ?
Alors aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qu'a été mes journées pendant 50 ans. Moi, je suis arrivé ici en 69. J'avais pas fait de cuisine, j'ai appris la cuisine auprès de certains grands cuisiniers. Mon grand-père tout d'abord, évidemment, et ensuite Trois Gros, ensuite Alain Chapelle, Girardet à Lausanne, Paul et Berlin, le père de Marc et Berlin, Paul Bocuse. Donc régulièrement, j'ai fait cet apprentissage dans ces restaurants 3 étoiles. Chaque hiver et l'été, je revenais travailler avec mon grand-père ici. J'ai fait ça pendant des années. Mon grand-père fondateur de la maison est mort en 93 et donc ça fait bientôt maintenant 30 ans que je gère cet établissement avec mon épouse. Alors une journée, moi je travaille 7 jours sur 7, j'arrive à 8h du matin, je fais le tour du domaine à pied, c'est-à-dire que j'arrive à Lousteau, je passe dans les cuisines, dire bonjour, je viens ici à la Cabreau, je dis bonjour, je fais le tour du jardin. Je vais voir mes petits pois, mes haricots verts suivant la saison. Et je reviens dans mon bureau. Tout ça m'a pris une grosse demi-heure. Après, je reste dans mon bureau jusqu'à midi. Et là, je fais du courrier, je dis au revoir à certains clients que je connais particulièrement. Je réponds au téléphone. Voilà, je m'occupe plutôt de problèmes de gestion et de motivation des équipes. Enfin, voilà, il y a des réunions. Et puis à midi, je mange rapidement, là, en un quart d'heure, et je fais le service. Donc je vais à la cuisine de Lousteau, jusqu'à 3 heures à peu près, et après je fais le tour de salle, je vois tous mes clients, j'essaye de ne pas louper une table, mais en général je les vois tous. Enfin, c'est pas en général, c'est systématique, je vois toutes les tables. Je discute avec certains qui me connaissent bien, certains qui viennent pour la première fois. Et je retourne dans mon bureau dans l'après-midi où de nouveau je m'occupe de problèmes divers et variés. Et puis je rentre chez moi vers 5h30. Je me repose une heure là. À 7h je dîne chez moi et à 7h30 je retourne à Lousteau jusqu'à 11h, 11h30, minuit. Voilà, je fais ça tous les jours depuis 50 ans. Ce qui a changé depuis l'arrivée de Glenn, j'ai embauché Glenn il y a 7 ans, c'est que maintenant je ne fais plus la cuisine. C'est lui qui l'a fait, donc je lui ai passé tous mes pouvoirs en cuisine, je me suis retiré. Mais je reste quand même pour faire les services, c'est-à-dire que je m'occupe d'annoncer les plats et de les faire partir ensemble, de faire en sorte que quand il y a quelqu'un qui mange un rouget et quelqu'un d'autre qui mange un pigeon, par exemple, à la même table, ils soient prêts en même temps et qu'ils partent ensemble avec des cuissons parfaites. Ça me permet de surveiller ce qui se passe et de voir ce que chaque personne a mangé, ce qui fait que quand je sors de ma cuisine pour saluer mes clients, je sais exactement ce qu'ils ont mangé. Voilà, donc je suis comme ça le service et ça me permet d'être en contact et de rester dans cette atmosphère de la cuisine que j'adore. Il y a une ambiance de la cuisine que j'aime et dont j'ai du mal à me passer. C'était assez difficile pour moi de ne plus faire la cuisine quand vous l'avez fait pendant des années. Et quand c'est vous qui avez été la vedette, maintenant la vedette c'est Glenn, parce que en plus, je veux dire, il a une notoriété due à la télé très forte, donc les gens viennent pour faire des photos avec lui, des selfies, parce qu'ils l'ont vu à Top Chef, et bon, donc c'est lui qui a pris maintenant la vedette. Et on fait un tour de salle tous les deux. Moi, je parle de la maison, de son histoire. Bon, il y a des gens qui me connaissent évidemment depuis très longtemps. Ils sont contents de me voir, toujours là. Et puis Glenn, il parle plus de la technique des plats et des ingrédients qu'il y a dans chaque plat, de l'idée de la philosophie de la cuisine, etc.
Donc, des journées que certains trentenaires auraient du mal à suivre. Et au milieu de tout ça, vous avez toujours eu cette âme de vigneron. pour ajouter encore quelques lignes à votre emploi du temps. C'est une vraie passion depuis très longtemps, mais ça doit être, j'imagine, assez chronophage également.
Ça me prend un petit peu de temps. C'est surtout au moment des assemblages, des vendanges. Un petit peu moins maintenant qu'à une certaine époque. Quand j'ai créé Château Romanin en 87, j'y passais beaucoup plus de temps qu'aujourd'hui. Puis après, j'ai quelques responsabilités syndicales au relais Château. Pendant longtemps, j'étais secrétaire général de l'association, donc ça me donnait pas mal de travail. Maintenant, je suis juste président du comité des élections et des rémunérations, donc c'est beaucoup moins de travail. Je suis pas obligé d'aller à Paris souvent, mais à l'époque, j'y allais beaucoup plus souvent. Voilà.
J'ai appris récemment que vous avez été un sacré précurseur en imaginant, il y a quelques années, un menu tout légumes. Vous nous en parlez ?
J'ai imaginé un menu tout légumes en 87, donc ça fait maintenant 35 ans. À l'époque, les gens me regardaient d'un air curieux. Ils me disaient « qu'est-ce que c'est avec cette histoire ?» J'avais un peu de mal avec les messieurs qui avaient culturellement toujours peur de sortir de table morts de faim parce qu'ils n'avaient pas eu un morceau de viande ou un morceau de poisson. En 85, j'ai fait un voyage en Inde. J'ai été invité avec un certain nombre de chefs, donc trois gros lameloises. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait des repas sans viande et sans poisson. Ça m'était jamais arrivé. Culturellement, si vous voulez, j'ai toujours mangé de la viande. Maintenant, j'en mange plus beaucoup, mais à l'époque, j'en mangeais tous les jours. Donc c'était un peu un choc. La deuxième raison, c'est que j'avais déjà commencé mon potager, donc avec des beaux légumes, et qui était un potager bio, comme le vin que je fais, parce que bon, on a pas peu parlé du vin, mais j'étais le premier à faire de la culture en biodynamie aussi en Provence. Donc ce parti pris du soin de la terre et que les raisins soient l'expression du sol et du sous-sol, et non pas de l'engrais qu'on aurait rajouté. J'ai des merveilleux petits pois, là, si vous y allez, là, vous pouvez les voir dans le jardin, j'ai des petits pois exceptionnels. Et ça, et puis des clients qui commençaient, notamment des Américains, et notamment la femme de Paul McCartney, Linda McCartney, qui était américaine et qui était végétarienne, et qui a écrit d'ailleurs un livre de cuisine végétarien dont j'avais fait le lancement à Paris. Et donc elle me demandait des plats de légumes, et il y avait un certain nombre de clients californiens qui commençaient déjà à me demander des légumes. L'ensemble de ça, cette expérience en Inde, plus mon potager, plus la demande de certains clients, c'est ça qui a fait qu'un jour, j'ai dit, mais je devais faire un menu que de légumes. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré, il y a 35 ans maintenant. Maintenant, c'est très à la mode, et on en vend beaucoup de ce menu de légumes. Et d'ailleurs, quand j'ai embauché Glenn, je lui ai dit, il y a des choses auxquelles je tiens particulièrement. Voilà, je veux qu'il y ait toujours à bonne manière un menu de légumes, je veux que le gigot soit le gratin dauphinois soit toujours servi, les crêpes, le millefeuille, un certain nombre de plats mythiques qui continuent parce que ça fait partie de l'histoire de la maison et qu'il y a beaucoup de clients qui viennent pour retrouver ce plat, ils sortent de l'autoroute, l'Avignon Sud et ils se réjouissent à l'avance de pouvoir manger une crêpe ou un gigot. Voilà, après il a toute liberté, Glenn maintenant, dans ce menu légumes, faire de la betterave ou de faire des petits pois, mais il faut que ça reste quand même dans la philosophie de la cuisine de Beaumanière.
Si je vous demandais un plat qui a marqué l'histoire de Beaumanière, qui a marqué votre carrière, vous seriez autour d'une réponse comme ça, tout légumes ?
J'ai un plat que j'avais créé qui a marqué l'histoire pendant longtemps, qui était un ravioli de truffes et de poireaux, que certains clients me réclament encore aujourd'hui, 30 ans après. Bon, Glenn l'a enlevé de la carte, parce que de toute façon, il y a des époques, et la cuisine qu'on fait en 2022, c'est pas la même qu'en 2000, et c'est pas la même qu'on fait dans les années 80. Mais là où je me retrouve, si vous voulez, avec Glenn, c'est dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on est très sur le produit. Il n'y a pas de chichi, pas trop de goûts différents, pas trop de déco, avec des zizi dans tous les sens. Ça, pour moi, c'est important. Il y a un esprit dans cette maison, il faut qu'on soit d'accord sur la philosophie, quoi. C'est fondamental. Après, le rouget, le fasse avec du chou plutôt qu'avec du fenouil, peu m'importe dans la mesure où c'est excellent et c'est bien fait et ça donne une idée de ce qu'est Beaumanière, ça me va très bien.
Parmi les nombreuses personnalités qui ont séjourné ici, est-ce qu'il y en a une sur laquelle vous aimeriez vous attarder, qui a plus particulièrement marqué les lieux ?
Il y en a eu énormément, il y a eu des voyages officiels pendant que Pompidou était président de la République, puisqu'il était très ami avec mon grand-père. Et donc c'est comme ça qu'on a eu la reine d'Angleterre, Deng Xiaoping, le Shah d'Iran, Saddam Hussein, donc tout un tas de personnalités. Il y a beaucoup de personnalités du monde du théâtre aussi. Il y a Michel Bouquet qui vient de mourir, qui vient souvent, Pierre Arditi, qui est sûrement un des plus fidèles, Daniel Auteuil, enfin, et Jean Reno qui était là encore ce matin. Donc c'est vrai que on est devenu très proche. Moi, j'aime beaucoup les acteurs de théâtre. On fait un métier qui se ressemble, c'est-à-dire que on recommence tous les jours. Les recettes sont les mêmes, les textes sont les mêmes, mais chaque représentation est différente. Les gens qui viennent à Beaumanière, ils viennent pour passer un moment, pas uniquement je choisis un plat, je mange et je paye et je m'en vais. C'est une expérience. Ils me disent, on a passé une bonne soirée, c'est une expérience. C'est plus qu'un échange commercial entre de la nourriture et un paiement en face. Donc ils sentent qu'il se passe quelque chose, que les murs ont une histoire, que cette maison a une âme, qu'on donne beaucoup. Les acteurs de théâtre, c'est pareil, hein, c'est tous les jours, on recommence, tous les jours, c'est différent. Il y a des soirées, quand on sort de la cuisine, on sent qu'il y a une espèce d'électricité dans l'air et que les gens sont particulièrement contents qu'il y ait une émotion. Il y a certains gens qui pleurent même d'émotion. Puis il y a des jours où il se passe moins de choses, moins... Voilà, c'est la clientèle où les spectateurs ne sont pas les mêmes, ne sont pas dans les mêmes dispositions. C'est un métier qui est difficile parce qu'on ne contrôle pas tout. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes engueulé avec votre femme qui vous a dit de sortir à Avignon Nord au lieu d'Avignon Sud, que la clim de la voiture ne marche pas, que quand ils arrivent la chambre ne leur plaît pas et que se sont engueulés, etc. Après le repas, il ne sera pas le même que si vous êtes avec l'amour de votre vie et que vous êtes très amoureux. On contrôle la qualité des approvisionnements, la qualité de la nourriture, la rigueur dans l'exécution des plats. Mais après, il y a des choses qu'on ne contrôle pas.
Si votre grand-père était avec nous là, à cet instant, c'est quoi le plus beau compliment qu'il pourrait vous faire ?
D'avoir réussi à maintenir, parce que c'est une chose de créer et de partir de zéro, ce qu'il a fait, de créer un restaurant et un hôtel, qui était très en avance sur son temps, parce qu'avant la guerre de 40, il n'y avait pas de relais château, ça n'existait pas. Il y avait des établissements sur la route, hein, on s'arrêtait chez Dumaine ou chez Point-Vienne ou à la cloche à Dijon, mais il n'y avait pas d'hôtellerie. Il y avait des bonnes tables, mais c'était sur la nationale. Et il n'y avait pas à l'écart des grands axes routiers un ensemble de chambres avec du charme, des jardins, des piscines, des parcs et une qualité de cuisine, ça n'existait pas. Beaumanière est le premier. Et le développement est lié aussi au développement de la voiture. On a fermé deux fois Beaumanière. Une fois, au moment de la fermeture du canal de Suez, je crois que c'est en 56, il n'y avait plus d'essence. Et en 68 aussi, pendant les grèves de 68, il n'y avait plus d'essence. Quand il n'y a plus d'essence, c'est difficile de venir. On peut venir en vélo, bien sûr. Enfin, ça limite quand même le nombre de clients. Voilà, donc c'est une aventure. Et je pense qu'il serait content c'est de voir que j'ai maintenu. Il avait 3 étoiles et Guide Michelin, on a 3 étoiles au Jury Guide Michelin. J'ai développé toutes les affaires, j'ai agrandi l'hôtel, j'ai fait un vignoble, j'ai agrandi la boutique, maintenant je fais une chocolaterie. Donc tout ça, je pense qu'il en serait fier parce que c'est la continuité du rêve du début.
Vous rêvez encore à ce que pourrait devenir Beaumanière ? Ou vous estimez que vous avez atteint vos objectifs ?
D'une certaine façon, j'ai atteint mes objectifs. La devise des princes d'Orange, qui étaient les seigneurs des bouts à une époque, c'est « je maintiendrai ». Moi, j'ai 77 ans, je continue à travailler tous les jours. C'est parce que j'ai envie, hein, personne ne m'y oblige. Et j'ai toujours des projets, je pense que c'est ça qui nous rend vivants et qui nous maintient. Des projets toujours pour rendre Beaumanière plus beau et meilleur. J'ai des projets encore de développement de chambres nouvelles, de circulation dans le domaine nouvelle. Je ne sais pas si je pourrais tous les réaliser, mais j'aimerais bien.